Bonjour, aujourd'hui j'ai déplacé mon micro pour aller à la rencontre de Marie Pinte. Marie est une petite curieuse intéressée par plein de sujets différents qui a du coup vécu plein d'aventures professionnelles. Son aventure du moment, c'est une herboristerie qu'elle a ouverte quasiment en face de chez moi. Et comme je suis aussi très curieuse, j'ai eu envie d'en savoir plus sur son parcours, sur ses motivations et sur ce qui se cachait dans les jolis bocaux derrière son comptoir. Vous allez entendre un épisode enregistré dans un lieu où on découvre les bienfaits des plantes, où on échange, où on partage et où on se découvre un petit peu soi-même. Vous allez découvrir le remède magique et délicieux contre le rhume. C'est un épisode à savourer avec une bonne tisane. Ça va pour toi ?
Oui, parfait.
Alors, on peut se lancer.
Ça marche.
Mais écoute, merci Marie de me recevoir.
Merci à toi.
Pour une fois, je déplace mon micro, mais j'ai pas été bien loin puisqu'en fait, on est voisines.
Oui.
Pour situer un peu, vu que c'est un podcast, on est dans ton herboristerie. Est-ce que tu peux décrire un peu ton lieu ?
Alors, c'est un lieu qui est d'abord excentré, donc ça c'était aussi une des volontés de ne pas être dans le centre de Braine-l'Alleud, en tout cas dans un centre-ville, mm-hmm. mais plutôt d'avoir un espace excentré pour pouvoir se ressourcer. Il est hyper lumineux parce qu'en fait il n'y a que des vitres, je n'ai qu'un mur plein, donc ça a été aussi une belle réflexion par rapport à l'agencement du magasin et du tea-room, puisque c'était un double concept. Il y a des couleurs parce que j'avais besoin de remettre de la couleur. Il y a tout ce qui est mobilier, où on est fort sur du mobilier recyclé. Donc, il y a rarement deux ou trois choses les mêmes. Et c'est du bois, essentiellement du bois, puisque j'avais envie de transmettre quelque chose de chaleureux, de quelque chose où, au final, on vient se poser le temps d'une tisane, d'un café, ou même de pouvoir travailler dans un endroit... Où il fait bon vivre.
C'est agréable, ouais. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de toi ? Est-ce que tu as une carte de visite ? Tu mets quoi comme titre ?
Alors, carte
pour
de visite.
Pour le moment.
Alors, pour le moment, j'ai beaucoup de casquettes.
Ouais.
On m'a surnommée la Action-Réaction, on m'a surnommée la Magicienne, ma sorcière bien-aimée. Donc, voilà, en termes de casquettes, en termes de... Allez, en termes de petits surnoms, j'en ai beaucoup en fait. Donc, puisque quand j'ai travaillé, j'étais encore employée à l'époque, j'avais reçu pour mon anniversaire de la part de mes collègues la fée clochette.
D'accord.
Donc un petit pendentif en fée clochette. Et donc ça ressemble un peu, ça représente bien qui je suis. Où j'aime bien mettre les gens en lumière, j'aime bien être à l'écoute et pouvoir transmettre. Donc c'est d'ailleurs une de mes valeurs.
Mmh.
Donc c'est vrai que je suis multipotentielle, hypersensible, je suis un tout et
plein de petits morceaux.
C'est ça. En fait, décrire en un mot, c'est hyper compliqué.
Et ici, dans ce cadre-ci, tu es gérante, tu es herboriste, tu es...
Alors oui, je suis... En fait, je suis gérante d'un magasin, puisque ça, il m'appartient. Enfin,
ouais.
Je loue le lieu, mais c'est vrai que... C'est le magasin lui-même, le concept en lui-même m'appartient. Donc oui, je suis gérante de magasin, même si mon statut officiel, je suis indépendante en personne physique.
Ouais.
Donc c'est un statut qui veut tout dire et rien dire en même temps.
Mm-hmm.
Donc, mais c'est vrai qu'ici, je suis gérante, herboriste, coach de vie, parce qu'en fonction des questions, en fonction des interactions... Ben, c'est plutôt cette expérience-là qui peut ressortir, ou l'herboristerie par rapport au fait de prendre soin de soi au naturel. Donc, en fonction de la personne que j'ai en face de moi et de la discussion et du partage, ben en fait, l'une ou l'autre casquette peut ressortir.
Ok, super. Si on remonte un peu dans ton histoire avant ce tumulte et toutes ces activités, enfant, toi, t'étais quel genre de petite fille ? Est-ce que quand les adultes, tu sais, demandent aux gosses qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Est-ce que tu te projetais dans une activité ?
Alors oui, il y avait une activité, c'était le journalisme.
Okay.
Donc d'ailleurs, j'ai un souvenir dans l'ascenseur, parce qu'à l'époque, on habitait dans un immeuble à Bruxelles et il neigeait. Et donc ma soeur, ma mère descend avec moi, pardon, avec dans l'ascenseur, avec la caméscope, parce que voilà, pour créer des souvenirs, etc. Pardon. Et en fait, je fais tout un reportage, un peu comme au JT. Et puis je dis, ah, c'est cool et tout. Elle me dit, et je la vois, son visage changer. Je fais quoi ? J'ai pas enregistré. Donc voilà, donc ça fait partie des petits. Mais ça reste un chouette souvenir. Donc oui, effectivement, j'ai un enfant très réservé, très peu de confiance en moi. Mm-hmm. Cette confiance en moi, elle est en fonction de la situation, elle est là ou pas. Mm-hmm. Donc, mais c'est vrai que je suis très forte dans l'impulsivité. Donc quand j'ai une strip, j'y vais, tout simplement. Mais réservé est toujours, et ça c'est vraiment un trait de caractère chez moi, c'est toujours dans l'observation.
Okay.
Donc toujours dans l'observation et de pouvoir en fait prendre le pouls. Alors aujourd'hui je sais ce que c'est dû à mon hypersensibilité et donc en fait je reçois tellement de stimuli qu'à un moment je suis souvent submergée. À l'époque je ne savais pas du tout ce que c'était, donc voilà.
Et du coup est-ce que dans ta scolarité cette idée d'être journaliste elle va conditionner tes choix et ce vers quoi ? Ou c'était un
pas du tout. D'enfant ? Alors, rêve d'enfant, alors le journalisme, parce que, en fait, je m'intéresse à tout. J'ai pas une passion, en fait. Je n'ai pas... Aujourd'hui, c'est l'herboristerie. Demain, ce sera peut-être autre chose. Et en fait, voilà, ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Et c'est OK. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à découvrir. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, en fait... Je m'intéressais à tellement de choses que ça n'a pas forcément conditionné. Alors oui, j'ai fait des études de communication à l'ULB parce que, oui, pour être journaliste, mais à la base, j'ai fait des études de droit, en fait. Parce que donc, j'ai fait deux candidats droit parce qu'on me voyait bien en droit.
Okay.
Moi, en réto, je m'intéressais tellement à tellement de choses.
Ouais.
En fait c'était compliqué de choisir et donc j'ai fait des choses parce qu'on m'a dit ah mais moi je te vois bien là-dedans et point.
Et finalement le droit pas tant que ça.
En fait c'est comique, à nouveau une chouette anecdote. On est en deuxième CES au niveau de la deuxième Candy et je suis avec Isabelle à la bibliothèque en train d'étudier qui a le gros cas de conscience qui me dit ça ne va pas. Je dis qu'est-ce qu'il y a? T'es sûre d'être faite pour le droit? Parce qu'en fait, moi, je me pose la question. Alors, elle est avocate aujourd'hui. Moi, plus. Moi, j'ai jamais été...
C'est de nouveau la réflexion de quelqu'un d'autre qui t'amène,
c'est
toi,
ça, et qui m'amène, en fait, à me rendre compte qu'en fait, je fais les choses parce que c'est ce qu'on attend de moi.
Ouais.
Mais c'est pas, au final, quelque chose qui me correspond parce que le droit est hyper strict. Et quand on voit mon type de personnalité aujourd'hui... Ben non, le droit, c'est pas du tout ça. Ça correspond pas du tout. Et c'est OK. À nouveau, j'ai fonctionné à l'instinct. Et en fait, à l'époque, pour choisir mes études, j'ai fait deux colonnes. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et donc, j'ai choisi communication parce qu'il y avait le plus de positif par rapport à la communication que par rapport au reste. Et puis, mes premières expériences professionnelles, elles sont... je change de job tous les 6 mois.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que, à l'époque, toujours pas consciente de ça. Donc, j'ai 21 ans, 21, 22 ans. Toujours pas consciente que, en fait, j'ai un mode de fonctionnement où je m'intéresse très vite aux choses. Mais donc, j'ai très vite fait le tour aussi.
Ça te lasse, après.
Donc, ça veut dire que je fais une période d'essai. Et puis, on me dit, tiens, OK, on confirme ta période d'essai.
Et toi pas.
Et moi pas, en fait. Parce que je m'ennuie dans ce que je fais. J'ai pas assez de challenge. Et donc, je rentre très vite dans une routine. Et ça, moi, je meurs. Et donc, j'ai toujours très vite compris que mon caractère est un caractère où j'avais besoin d'être indépendante. Mais chaque fois, je me suis dit, OK, si je ne trouve pas de job, c'est que je peux me lancer. Et puis, en disant les 24 à 48 heures, systématiquement, je trouvais un autre job. Toujours en tant que CDI. Et donc, jusqu'au jour où je suis restée dans une boîte... Pendant à peu près 10 mois, donc j'ai dépassé la période d'essai, mais à nouveau...
Ton record.
Mon record, vraiment, en fait, c'est la période... En tant qu'employée, c'est le record. En tant qu'indépendante, c'est quand même 6 ans.
Ouais.
Donc, mais il y a eu un fil rouge, c'est qu'à l'époque, j'étais dans le mouvement de jeunesse, et donc, je travaillais dans les événements. Et en fait, à un moment, idem, au niveau des études, j'ai commencé à m'embêter. Et donc, j'étais délibée parce que, il y a des cours où... Voilà, j'étais pas convaincue, en fait, qui ne m'intéressait pas du tout. Et donc, j'avais beau étudier, à partir du moment où ça ne m'intéresse pas, ça rentre d'une oreille et puis ça sort de l'autre. Et en fait, j'étais voir le doyen. Je dis, voilà, je dis, donnez-moi juste mon papier, parce que de toute façon, je ne poursuis pas. Donc, mais je veux juste le papier, en fait. Mmh. Et donc, ils m'ont donné mon papier. Mmh. Et j'ai lancé, je suis rentrée en vie professionnelle avec le fil rouge d'indépendante complémentaire dans les événements. Et à un moment, je me suis lancée dans les événements en full time.
Mais donc, tu travaillais, tu as terminé tes études en travaillant, c'est ça?
Oui.
Ok.
J'ai d'accord. terminé mes études en travaillant, parce que je travaillais à l'époque, pour payer mes études, je travaillais ouais. chez GB.
Ouais.
Anciennement Carrefour, anciennement. voilà. Mais je travaillais chez GB comme student pour pouvoir payer mes études. Mm-hmm. Donc en fait, j'ai eu mon petit papier. Et j'ai pas attendu d'avoir mon papier pour commencer à bosser.
C'est marrant, tu dis ton papier, pas ton diplôme.
Ouais, pour moi, c'est un papier. Dans le sens où ça m'a jamais servi.
Ouais, ouais, c'est un papier, quoi.
C'est un papier, en fait. Ouais, vraiment. On devrait me le demander aujourd'hui.
Ouais, tu dis pas, j'ai un diplôme en communication.
Non. En fait, non. En fait, non. Non, par contre, même au niveau de mes formations, oui, en herboristerie, parce que aujourd'hui, on parle quand même de santé. Mmh. C'est quand même important de connaître les contre-indications des plantes et notamment par rapport à, par exemple, si je prends la sauge, ben, c'est hyper important de savoir qu'on ne peut pas donner ça à une femme qui a eu un cancer. Mmh. Donc ça, c'est hyper important de savoir. Donc il y a des choses où effectivement, aujourd'hui, ce diplôme-là, oui.
Je le considère, ouais.
C'est pas qu'un papier, mais le reste, en fait, j'ai jamais utilisé.
Entrepreneur, d'où ça sort, comment ça ouais, te donc, voilà. prend au trip.
Ça me prend en trip et puis ben voilà et puis à un moment il y a eu un début de rêve, c'est de créer ma propre société.
Okay.
Et donc en 2011 Toff est né. Mmh. Donc voilà, sur un coup de tête, j'étais voir un peu avant le 15 août, j'étais voir le notaire pour poser des questions, puisque en fait quand tu te lances comme indépendante, ben, tu as l'opportunité d'aller voir gratuitement un notaire et un comptable. Donc ça, en général, ben, en fait, les porteurs de projets ou les gens qui ont envie de se lancer, mm-hmm. y en a très très peu qui le savent. Mm-hmm. Mais en fait, tu peux aller voir ces deux personnes là gratuitement avant de rentrer dans une relation et de prendre un service.
Et les systèmes de couveuses et tout ça, tu connais pas, j'imagine?
Alors à l'époque, je me suis renseignée et puis bah, j'ai discuté avec mon cousin à l'époque d'une chose et de l'autre et de voir un petit peu comment ça fonctionnait, etc. Et en fait, j'ai fonctionné très fort à l'ego en me disant, bah, en fait, si les autres peuvent y arriver, moi aussi, hop là. Ouais. Et en fait, je me suis lancée, je fonctionne très à l'intuition et j'ai fait appel à des systèmes de couveuses par après. Mmh. Et en fait, ça ne correspond pas à mon mode de fonctionnement parce qu'ils sont très forts dans le linéaire, dans le temps. Oui. On fait une étape oui. et puis tu peux... Ok, tu n'as toujours pas fait cette étape-là, donc on sait toujours... Ben en fait, si, je n'ai pas besoin de cette étape-là pour passer à l'étape suivante. Et donc, parce que voilà, enfin... Mm-hmm. Et puis, à l'époque, j'ai fait appel à eux alors que j'étais déjà dans indépendante. Et donc, du coup, ben, ouais, quand on te demande de faire 4 semaines d'études de marché... Ben non, j'ai pas que ça à foutre, sans vouloir être vulgaire, j'ai pas que ça à foutre en fait.
Ouais, ouais.
À un moment, moi je dois faire rentrer des sous aussi, mm-hmm. et donc j'ai pas un chômage qui tombe sur le côté en disant ouais. Ok, ben je peux passer mes 3 appels par jour, enfin non, mm-hmm. ça va pas. Mm-hmm. Et à l'époque, je travaillais dans les événements, donc ok, peut-être je vais programmer à 10h, puis ben, je vais avoir un stress et je vais devoir régler le truc, donc en fait, je suis dans mon day-to-day quoi. Donc, et donc, le mode de fonctionnement des couveuses, ça ne m'a jamais vraiment convenu. Et au final, je me rends compte que l'expérience que j'ai aujourd'hui, elle n'est pas si mal.
Mm-hmm. Et donc, première activité, c'est Toff, et c'est de l'événementiel. Il y a une thématique, il y a...
Alors, oui et non. Mm-hmm. Donc, j'ai plutôt fonctionné au projet.
Ok.
Et puis, en fait, mon ambition, c'était aussi de pouvoir créer du lien. Donc, je suis vraiment une créatrice de liens, ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise aussi. Et donc, j'ai organisé et animé des team buildings.
D'accord.
Et puis, en discutant un jour avec Ross, qui était un de mes clients fournisseurs, et c'est vrai qu'en discutant avec lui, il me dit oh, tu fais une erreur, tu passes dans l'organisation, reste plutôt dans l'organisation, mais en freelance. Enfin, même si j'étais en structure, etc. on considère ça comme freelance parce que c'est pas Tough Events qui organise, mais c'est Marie Pinte qui organise au nom d'une grosse société pour un client final. Et en fait, je dis bah non, je peux y arriver, machin. Sauf qu'en fait, je me suis complètement sous-estimée. En fait, non, j'ai sous-estimé le fait d'accepter de me mettre en avant. Et donc, en fait, je suis rentrée dans des peurs, je suis rentrée dans un sentiment d'obligation de faire rentrer des contrats. Et en fait, je me suis perdue en chemin. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis perdue en chemin, jusqu'à arriver à une ligne rouge où je suis sur événement. J'ai Alissa en face de moi. On s'occupe à organiser un événement de networking. Et il y a deux parties dans cet événement-là. Et en fait, moi, je suis l'organisatrice et je suis au milieu des deux. Et une partie devait faire des trucs, puis l'autre. Et en fait, elle se renvoyait la balle en permanence. Et qu'il y en avait une qui systématiquement râlait. Et à un moment, elle est arrivée vers moi. Elle n'a toujours pas fait ça. Je lui ai dit, écoute, tu m'emmerdes. En fait, là, tu m'emmerdes. Ce n'est pas mon problème, en fait. Moi, je suis le jour de l'événement. Je suis dans le montage, dans le placement des trucs. Là, tu m'emmerdes. Et je me suis regardée, je fais, ok. Là, il y a maintenant un stress. Donc, on termine les contrats. Et là... On pose parce que là il y a un stress, il y a quelque chose qui va plus. Parce que oui, alors les pieds de plomb depuis des mois, etc. Oui, mais tu mets ça sur le compte de la fatigue. Mais là, ma réaction, c'est pas moi. Là, je peux franchement dire, le fait d'arriver et de répondre de cette manière-là à une cliente, j'ai dit ok, là.
Ça va plus.
Et donc l'événement, c'est. Et entre-temps, je faisais plein de trucs à côté. Et donc
l'expert... Ça a été quoi le projet d'après ?
Projet d'après ? Alors, en fait, c'est... j'ai suivi un atelier avec Elodie de chez Pépite, qui est du côté de Charleroi. Elle a fait une journée avec du mind mapping. Et donc, j'ai pris une journée comme ça avec elle. Et c'est vrai que les outils qu'elle a utilisés m'ont permis de prendre du recul. Et ce qui revenait... c'était l'animation.
Ok.
L'animation et en fait le jeu.
Ok.
Parce que j'étais dans les mouvements de jeunesse et donc j'animais au travers du jeu les enfants. Tough, les team building, je créais les jeux. Donc c'était pas, il n'y avait jamais de jeu qui était tout fait. C'était systématiquement de la création pour les entreprises qui venaient à moi. Donc la création, le jeu, imaginer en fait l'ambiance et qui va être propice au développement personnel.
Et aux rencontres.
Aux rencontres et vraiment au développement personnel de la personne au sein de l'entreprise. Je suis revenue au jeu. Et en fait, j'ai créé Mary Poppins.
Oui.
Donc, où là, j'allais dans les écoles avec des valises pour faire découvrir les pays aux enfants, mais se permettre de se découvrir soi en disant, tiens, en fait, l'autre est différent. Mais en fait, il n'est pas si différent que moi parce que, ok, il a des us et des coutumes différentes, mais on est des humains. Et en fait, ce projet-là est né parce qu'à un moment, je discute avec mon ex-belle-fille, puisque c'est la fille de mon ex-compagnon. Et à un moment, elle dit, oui, j'ai un petit noir dans ma classe, mais j'ose pas m'asseoir à côté de lui. Alors moi qui viens de Bruxelles, des écoles à 21 nationalités, tu dis... pas comprendre que tu puisses avoir peur de quelqu'un qui a en fait pas juste pas la même couleur de peau que toi. Et donc du coup ce projet là est né ça m'a beaucoup appris. Parce que d'abord j'ai découvert des personnes comme Daria qui m'a partagé son pays d'origine qui est la Russie. J'ai appris à découvrir le Burundi. J'ai appris à découvrir le Japon. Parce que du coup, j'avais choisi les pays. Alors la Russie, c'est arrivé à la demande d'une école, mais qui n'est pas forcément un pays très très ouvert. Alors qu'en fait, les pays que moi j'avais choisis, c'est le respect, c'est l'ouverture à l'autre. Et donc il y a vraiment, une base de valeurs qui me suit en fait. Et donc, mais ça m'a permis de rencontrer des personnes et d'avoir des relations aujourd'hui qui sont durables en fait. Donc, et ça, c'est la magie de ce que j'ai fait depuis le début et c'est ce qui me porte et c'est ce qui, quand j'ai des moments down, qui me permet de retrouver l'énergie que pour pouvoir avancer, quoi.
Ouais. Et du coup, Mary Poppins, cette aventure dure un moment ?
Elle dure, mais elle est assez éphémère parce qu'en fait, à nouveau indépendante full-time. Alors, soit je rentre dans une notion économique qui est quand même intéressante, enfin qui est quand même importante au niveau de l'entrepreneuriat, parce que si tu bosses pas, ben à un moment t'as pas de revenus.
Et donc, qui te paye les écoles ?
Alors ce sont les écoles, je fais des anniversaires, je fais des animations où moi je loue un espace, etc. Mais très vite je me rends compte que si je veux être, si je veux pouvoir vivre de mon activité et pas juste payer mes factures, en fait je dois faire des animations à la chaîne. Bah donc du coup, mais en perte de sens, quoi.
Ouais, c'est pas l'esprit.
C'est pas du tout l'esprit, ça veut dire que je prends pas le temps avec les enfants, parce que du coup, bah en fait, je dois terminer à midi, et parce que je dois être à 13h ailleurs. En fait, non. Fait, non. À nouveau, c'est pas mon trip, c'est pas ma manière de fonctionner. Donc moi, je veux prendre le temps avec les enfants pour transmettre. Parce que ça, vraiment, ce qui me guide dans tout ce que je fais, et c'est OK, en fait. Et donc,
et c'est comme ça que t'as été vers l'agilité, alors ?
Alors l'agilité, Poppins n'étant pas rentable, je suis restée dans le jeu et je me suis formée au Lego.
Lego
Serious Play fin 2018. Puis bah, le temps de tout mettre en place, on est mi 2019. Les premiers contrats, j'ai un carnet de commandes qui est plein. Parce que effectivement, à l'époque, le Lego est en poupe. Les entreprises
aiment bien
et parlent de plus en plus de design thinking, puisque on parle de design thinking à l'époque où on travaillait vraiment avec le Lego et le Playmobil que pour vraiment remettre du sens et donc j'ai un carnet de commandes qui est plein, je fonctionne assez bien, je recommence à bien gagner ma vie parce que 2015, etc., au moment où je recommence à faire mes toffes, je suis proche de la faillite. Alors à nouveau, l'ego fait que je fais une liquidation et pas une faillite. Mais la liquidation n'a lieu qu'en 2018 parce que les comptables en Belgique, ils détestent en fait les indépendants
en personne physique.
C'est plus simple une société parce qu'en fait, la comptabilité est beaucoup plus claire. Voilà, il y a une obligation de système comptable. Et en fait, en termes de gestion, pour un comptable, c'est beaucoup plus facile fiscalement avec une société qu'avec un indépendant en personne physique. Sauf qu'à l'époque, à nouveau, je travaillais pour payer et je ne travaillais plus pour vivre, je ne vivais plus. Et donc, c'est une des raisons aussi qui m'a perdue. Et c'est OK, ça fait partie de mon cheminement. Et donc, l'agilité, en fait, je suis revenue à quelque chose qui me portait par rapport au team building en disant, tiens, j'avais envie... Enfin, je voyais l'effet de ce que moi, je créais le temps d'une journée ou deux jours, mais souvent avec un effet soufflé puisque tu reviens dans un day-to-day rapidement. Tu dis en fait non, on va aller un step plus lent. Et donc oui, là où je suis intervenue, oui, il y a eu des vraies transformations. Alors évidemment, Covid a évidemment remis beaucoup de choses en perspective, et puis Covid m'a permis de revenir à un essentiel. Mais qu'est-ce que je faisais à nouveau au niveau de l'agilité? Je travaillais très fort en dynamique de groupe, j'adore ça, donc on revient à l'animation.
La chef scout,
c'est vraiment ça en fait. La nature, l'herboristerie, voilà, voilà, donc c'est vrai qu'en fait, le fil rouge,
ça se tient.
C'est chaque fois une évolution, on peut donner l'impression que c'est chaque fois un pas en arrière, mais en fait non, c'est vraiment le scoutisme et le mouvement de jeunesse qui est à la base de tout mon parcours professionnel.
Et comment l'herboristerie arrive alors dans l'histoire ? Je me rappelle du moment où tu parles de tiens, j'ai envie de me former, je veux faire des tisanes.
Alors en fait, tout ça est bête, c'est que alors on est en mode confinement, donc le confinement fait que je perds tous mes contrats du jour au lendemain. On est enfermé le 17 mars, mais moi la journée noire, c'est le 9 mars, je me souviendrai. Et je crois que Valérie Lizens, qui est en face de moi à l'époque, et je reçois mon premier coup de fil d'un énorme client qui me dit en fait, on est obligé de prendre la décision de suspendre, de suspendre le contrat parce qu'en fait, on parle de plus en plus de nous enfermer, fermer le confiné, etc. Et donc, là, on suspend. mais on est quand même sur un énorme projet, etc. Et donc, puis dans 10 minutes plus tard, j'ai un deuxième appel. Deuxième gros projet qui, elle, stoppe. En l'espace d'un quart d'heure, je crois que je viens de perdre 10 000 euros. Et t'es là.
Ah.
Ok. Respire, alors t'es face à quelqu'un que tu connais pas, donc ok, tu prends les choses positives, puis t'arrives dans ta voiture, oh ok. Et puis bah en fait, j'arrive, enfin en fait cet après-midi-là, j'ai eu 5 appels et j'ai même plus regardé mes mails après.
Ouais.
Et puis bah en fait, on est suivi beaucoup d'émotions qui sont sorties, pas agréables, mais hyper, hyper positives, parce que la colère, bah voilà, il fallait qu'elle sorte, et puis bah le temps de la réflexion, de dire ok, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire,
ouais.
Qu'est-ce qui reste de toutes ces expériences professionnelles, etc. Et donc bah, en fait, s'en est suivi la création d'un accompagnement en reconversion professionnelle,
ouais.
Parce que bah, en fait, moi je changeais de job tous les 6 mois. J'avais créé une société que j'avais liquidée, j'avais créé un autre projet que j'ai stoppé, enfin en fait, donc du coup bah, j'avais quand même une certaine expérience dans le choix de revenir à soi. Et donc, j'ai eu mes premiers clients en reconversion professionnelle comme ça. Et donc, ça en est suivi. Et puis, ben, enfin, voilà, tu es bien placé pour le savoir. Lors des accompagnements, ben, tu vas parler tu ne restes pas que dans le professionnel. À un moment, il y a toujours dans le privé. Et puis, c'est important, en fait, quand tu fais une reconversion professionnelle, de t'intéresser à la personne privée, parce que en fait, ce qui peut sortir, c'est parfois un simple hobby qui peut tout d'un coup devenir une passion qui va te permettre de vivre et de t'épanouir professionnellement. Et donc, dans cet accompagnement, de temps en temps, moi je souffre aussi, oh, je souffre ça. Et puis j'étais déjà à l'époque dans les remèdes de grand-mère.
Ouais.
Donc en fait, avec Maxime, moi j'ai ma mère a un Crohn, donc je suis insensible à la cortisone. Donc moi, à l'époque, j'étais shootée au sofracillone.
D'accord.
Mais enceinte, tu peux pas. Et donc, du coup, chercher des remèdes de grand-mère pour pouvoir soigner mes sinusites chroniques, pour soigner mes allergies, pour ci, pour ça, un rhume. À l'époque, ma grand-mère, quand on avait un rhume, elle coupait des rondelles de carottes, elle mettait de la cassonade qu'elle laissait mariner pendant une nuit. Et en fait, c'était hyper efficace.
Okay.
Simplement la carotine, quoi.
Ouais.
Et qui était, en fait, qui ressortait au travers de la cassonade, en tout cas du sucre. Et donc, c'est, évidemment, c'est hyper agréable, la carotine. Enfin, en tout cas, la carotte avec le sucre, c'est super bon. Donc, voilà, c'est un remède de grand-mère qui est, un, qui est efficace, et deux, qui est bon.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est, en fait, donc je partageais des remèdes de grand-mère et surtout des choses que je faisais pour moi. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à recevoir des messages, des mails, etc. En disant, tiens, qu'est-ce que je peux faire si j'ai ça? Qu'est-ce que je peux faire? Et machin. Ouais, mais je ne suis pas médecin. Enfin, je n'utilise les plantes qu'au travers de mes connaissances et des bouquins que je peux glaner, des recherches que je fais sur Google et mon ami, tout en fonctionnant à l'intuition. En disant, tiens, c'est bizarre, il y a un truc. Enfin, je ne le sens pas, donc je ne vais peut-être pas faire ça comme ça. Et puis, en fait, fil en aiguille, je me suis vraiment intéressée à l'herboristerie, mais à l'époque, on était encore confinés.
Ouais.
Et puis, quand on a pu recommencer en présentiel, en fait, moi, j'avais de la lavande, j'avais de la menthe, donc j'avais commencé à faire des mélanges pour moi. Et donc, les gens repartaient avec des petits mélanges pour les aider à avancer sur leur chemin, quoi. Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à me demander des riffis, etc. Et donc, je me suis formée à l'herboristerie et j'ai créé... Et en fait, ce sont mes clients qui m'ont poussée
à avancer,
à créer... pourquoi tu ne crées pas tes propres tisanes, machin? Et donc, alors je ne fais jamais les choses à moitié. Donc, du coup, j'ai créé les... Enfin, j'ai demandé à quelqu'un de créer une étiquette. J'ai choisi le packaging. Parce que, juste faire un truc en disant, tiens, tu peux prendre... non, alors, si on y va, on y va, quoi. Donc... Et l'herboristerie, pendant la formation de l'herboristerie, on te forme à ouvrir un magasin.
Ouais.
Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Au moment où j'ai commencé la formation, et puis j'ai quitté j'étais devenue employée chez mon ex-compagnon et ça ne me convenait pas. Parce que je m'enfermais, donc au final, je respirais, je vivais, je travaillais uniquement... au nom de son activité à lui. Donc en fait je n'avais plus d'ailleurs ah, tu es, bonjour, Marie, machin, enfin.
Oui.
Et donc, en fait, je n'existais plus, c'est ça, je n'existais plus, moi, en tant que Marie peinte, j'étais Marie de son activité. Ben, en fait, non. Mm-hmm. En fait, non, c'est pas, d'abord, moi, vendre du vin, c'est pas mon kiff, même si, bah oui, voilà, en fait, à partir du moment où j'entends ce que, j'ai intégré les ingrédients que je peux partager, je partage assez bien, je suis une excellente vendeuse. Et donc, mais je vends mieux les autres que moi. Voilà. Et en fait, donc j'ai trouvé en fait une collaboration dans un magasin à Wavre où très vite je me suis rendu compte que c'était pas le magasin, oui, mais à Wavre pas.
Okay.
Et donc d'abord point de vue trajet, point ouais. de vue organisation. Et puis il y avait un truc qui était pas juste par rapport à l'ambiance du magasin. Donc même si j'ai énormément appris, la personne qui le tient m'a énormément appris. Je lui suis d'une reconnaissance éternelle par rapport à la transmission qu'elle a eue par rapport à moi. Mais nos deux caractères n'étaient pas forcément compatibles sur le long terme.
Ouais.
Et donc, et c'est ok, ça fait partie aussi des apprentissages. Ce qui m'a permis du coup de quitter mon ex-compagnon. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai quitté le magasin à Wavre en fait pour créer le mien. Et donc l'idée de l'herboristerie, c'est que je voulais créer. Alors je suis coach de vie, je suis coach agile, je suis coach, j'ai ce qui vient depuis tantôt, c'est que je suis tout et n'importe quoi. Mais je suis pas n'importe quoi, mais je suis un tout.
Tu es plein de choses.
Je suis plein de choses et faites de petites expériences qui grandissent au quotidien et qui reviennent au devant de la scène à certains moments et qui ne sont plus utiles à d'autres. Et donc c'est vrai que en fait l'herboristerie elle est née comme ça parce qu'elle est un double concept. Donc j'avais pas juste envie d'un magasin, j'avais pas juste envie d'un tea room et donc j'ai créé les deux. Voilà.
Et si on s'interroge, moi j'aime bien poser cette question d'un point de vue pratico-pratique parce que je crois qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui sont justement en questionnement ouais. et qui par rapport à l'entrepreneuriat ont des craintes, des freins. Souvent moi ce qui me revient dans les accompagnements c'est les gens qui se disent mais comment on fait ? Et je trouve intéressant d'entendre des professionnels dire c'est quoi tes outils au quotidien ? Avec quoi tu bosses ?
Alors avec quoi je bosse ? Mon intuition. Beaucoup. Alors, pour moi, ce qui moi m'a permis de me lancer, c'est mon ego, qui à ce moment-là était très bien placé, qui aujourd'hui est pas toujours bien placé parce que du coup, j'ai appris à fonctionner uniquement seule.
Ouais.
Alors qu'en fait, la réussite d'un projet, c'est 95% d'entourage. Vraiment, c'est parce que en fait, un entrepreneur est et casquette de tout
ouais.
dans le sens où tout d'un coup tu deviens comptable, tu deviens marketeur, tu fais plein de choses et accessoirement ce pourquoi tu te lances
ouais.
parce que tu dois communiquer, parce que tu dois faire ton administratif, parce que si, parce que ça, machin, et il faut et donc accessoirement en fait tu fais ton activité de cœur. C'est pourquoi en fait tu dis ouais ok j'y vais.
Ouais.
Et donc ton entourage pour moi c'est ce qui peut vraiment aider dans un premier temps ou mettre dans des bâtons
ouais.
des bâtons dans les roues, c'est l'entourage.
Et du coup au quotidien donc ici dans la boutique je vois ton mobilier en bois, il y a une partie boutique, tu vends des produits, donc tu as des fournisseurs j'imagine ouais. Les tisanes, c'est que des choses que toi tu conçois ?
Oui, oui c'est que moi, il n'y a que moi qui conçois.
Que toi dans les boîtes ?
Et que moi dans les boîtes. Mais je ne me mets plus. Je ne me mets plus en boîte. J'aime bien dire ça. Parce que je me suis mise en boîte pendant 8 ans. Et aujourd'hui, en fait, je suis depuis un an un peu comme une enfant qui retrouve un peu la liberté, qui teste plein de choses, ouais. etc. En fait, j'ai toujours testé plein de choses. J'ai toujours. Aimer, découvrir, apprendre et ça fera partie de mon cheminement et de mon mode de fonctionnement, c'est de continuer à apprendre pour transmettre Et par rapport à se lancer dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, en fait, en Belgique, il y a plein de choses qui peuvent aider. Donc, en Wallonie, vous avez le 1890, qui est un service gratuit. À Bruxelles, vous avez le 1819. N'hésitez pas, en fait, à poser des questions, à venir quand vous voyez un networking ou des trucs comme ça. Moi, ce que j'ai beaucoup conseillé à des personnes que j'ai accompagnées en réorientation professionnelle et qui ont lancé un projet, c'est des réseaux comme les Mompreneurs. Un réseau où on s'est rencontrés parce que c'est un réseau où on peut poser des questions. En fait, tu vas à la rencontre et quand tu poses une question, tu auras toujours une réponse. Tu auras toujours un soutien. Tu auras toujours... Alors, ce n'est pas forcément la réponse auquel tu t'attends. Ce n'est pas forcément une réponse qui va te faire plaisir. Mais au moins, tu auras toujours soit une piste de réflexion, soit une piste de réponse, mais au moins tu as une réponse à ta question. Ou peut-être une réorientation vers une personne qui peut t'amener une piste de réponse. Et donc pour moi, ça, c'est le genre de choses où le slogan, c'est seul on va vite mais ensemble on va plus loin. C'est vrai. C'est, pour l'avoir expérimenté, c'est total.
Du carburant, hein.
C'est du carburant. Et puis, quand ça va pas bien, moi je suis dans une période avec l'herboristerie où, on est en période de vacances, c'est tendu quoi. C'est tendu. Financièrement, j'ai dépensé énormément de sous dans l'herboristerie, dans l'aménagement, etc., dans le fait de se faire connaître, etc. Et donc, ça met plus ou moins de temps. Mais donc, les périodes de vacances, c'est tendu parce que tu es là à attendre derrière un comptoir. Et de temps en temps, tu as quelqu'un qui passe le pas de la porte, ou tu as un message, ou tu as une amie qui t'appelle, je t'appelle pour savoir comment tu vas. C'est hyper important parce que du coup, même si la personne à la base, elle peut de temps en temps t'appeler en disant j'ai besoin de déposer, c'est ok au final. Mais au moins, tu es dans la relation et tu te sens utile ou tu auras été écouté. Et donc c'est pour moi, la relation, c'est la réussite d'un projet. C'est vraiment, il y a deux choses, c'est petit pas par petit pas, et si on voit la montagne, c'est comment on peut la découper. Et il y a plusieurs outils pour ça. Il y a le mind mapping, il y a le tableau de visualisation. Tu as le fameux BMC, donc le Business Model Canva, que moi, en tant qu'indépendant depuis 13 ans, je fais deux fois par an. Parce que, idem, entre ce que j'ai imaginé pour ce projet-ci et la réalité, mais il y a un monde de différence. C'est pas le magasin qui fonctionne le mieux, c'est le tea room, mais le tea room ne me permet pas de vivre aujourd'hui. Et c'est ok. Mais c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie, mais de dingue en fait.
Et dans ton entourage, du coup, il y a aussi, j'imagine, comptable, assureur.
Alors j'ai un comptable. Banquier, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, moi, les banques, c'est pas vraiment le système sur lequel on peut compter. Mais par contre, oui, comptable, c'est Jess, c'est ma cinquième comptable. Donc quand je me suis lancée, j'avais vraiment. C'était Marc, je ne sais plus comment, vraiment un bon feeling. Et puis au moment où j'ai eu besoin de lui, en fait, sa femme était enceinte et elle a eu des complications. Donc en fait, il ne s'est plus du tout montré disponible. Et donc j'ai dit, en fait, non. J'ai besoin d'avoir des réponses, donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Alors je comprends les circonstances de vie, mais là, non.
Il fallait que tu changes.
Il fallait que je change. Et puis je suis en société, j'ai pris... Il faut savoir qu'en société, tout coûte vachement plus cher. Donc quand on se lance, pour moi, c'est il faut se renseigner. L'idée, vraiment, pour moi, le premier contact à avoir, c'est un comptable, et le premier rendez-vous est toujours gratuit. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que tout le monde n'est pas au courant, et poser toutes les questions. Il y a plusieurs manières de fonctionner en Belgique. Il y a la franchise, il y a le fait d'être indépendante complémentaire, il y a le fameux smart, etc., qui peuvent se permettre de se lancer tout en gardant un chômage. Donc en fait, il y a énormément de solutions en Belgique, donc poser des questions quoi. Pour moi, la première, quand on a envie de se lancer, c'est poser des questions.
J'allais justement te demander, quel est le conseil que tu as reçu qui t'aura été utile ou que tu aurais aimé recevoir?
Que j'aurais aimé recevoir, c'est poser, justement, poser des questions. Ouais. En fait, moi, je n'ai pas posé des questions parce que... Alors, à l'époque, moi, je me suis lancée à Bruxelles. Et à Bruxelles, on soutient vraiment l'entrepreneuriat par rapport à la Wallonie. Mm-hmm. En fait, à partir du moment où ils détectent qu'il y a un nouveau numéro de TVA, ce qui était le cas à l'époque, en 2011... En fait, automatiquement, tu reçois un courrier postal du 18-19 en disant, voilà, sachez qu'il y a telle et telle structure à Bruxelles qui existe, où vous pouvez poser vos questions. Ouais. Et en fait, moi, j'ai suivi, j'ai fonctionné beaucoup à l'intuition et j'ai peut-être pas assez posé de questions. J'ai peut-être pas, ce que je fais beaucoup plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mon gros challenge, c'est d'accepter de demander de l'aide. Ce qui reste encore très compliqué. Voilà, dans ma perception des choses, je perçois encore ça comme une faiblesse, alors qu'en fait, les gens n'attendent qu'une chose, c'est que je demande...
Disent comment est-ce qu'on peut t'aider.
C'est ça. En fait, et c'est ça aussi, un second conseil, c'est en fait poser des questions, demander, dans le sens où en fait, les gens ont à cœur. En fait, ça valorise les gens d'accepter... qu'ils nous aident. C'est leur donner de la valeur, en fait. C'est pas une question, alors je le dis, mais je l'applique pas encore vraiment. Donc j'avoue que je plaide coupable, je suis encore là très fort dans faites ce que je dis pas ce que je fais. Mais voilà, je suis en chemin par rapport à ça.
Super. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut pourquoi est-ce qu'on croise les doigts?
Alors, croise les doigts. Aujourd'hui, je sais que ce magasin-ci n'est qu'un tremplin. L'idée, c'était de créer un centre de thérapie holistique.
D'accord.
Et je pense que ce magasin-ci n'est qu'une première étape. Puisqu'en fait, j'ai créé mon centre. Puisqu'il y a des ateliers qui se donnent. Il y a de la transmission. Au travers de mon expérience, quand je discute avec l'une ou l'autre... ou l'un ou l'autre client, parce que c'est pas, je n'ai pas une clientèle exclusivement féminine.
Il y a des hommes qui viennent.
Il y a quand même quelques hommes qui ils sont peu nombreux. Venez, messieurs, je ne mange pas. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai créé ce centre. Alors clairement, on ne sait pas faire de consultation ici parce que c'est compliqué, parce que il y a, c'est, alors oui, l'espace se prête à de la transmission au travers d'un atelier. Parce que l'endroit est sécurisé, mais pas assez que pour si jamais il y a une émotion qui monte, tout est vitré. Donc on est vraiment à dire bonjour.
Il y a les voisins.
Voilà, il y a les voisins qui passent. Et puis bah, le fait que ce soit qu'on soit en consultation, bah, il y a des clients qui peuvent tout d'un coup rentrer, etc. Donc en termes de sécurité, pour moi, c'est pas OK. Donc, mais donc dans un avenir plus ou moins proche. Ça, c'est vraiment l'univers qui me le dira, qui mettra l'opportunité devant moi. Je pense que ce sera la prochaine étape. Et puis, il y en aura encore une autre.
Il y a le centre de consultation à louer juste là, hein, tu sais. Hein. Au bout du building, là.
C'est vrai? Ah oui, je ne sais pas. Voilà, c'est... Alors, ici, j'ai quand même pris un engagement.
Ouais.
Alors, quand on est on loue en privé, je sais comment ça fonctionne. Je ne suis pas encore très au fait de la location commerciale, comment on coupe tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je suis... ça fait partie des choses où, voilà. J'apprends, je découvre. Et puis, en fait, chaque projet, c'est ça la magie de l'entrepreneuriat. C'est qu'on se découvre soi en priorité. Il y a des choses où, quand on imagine un projet de cœur... il y a l'imagination, il y a la mise sur papier qui peut être sérieusement différente, et puis il y a la réalité.
Ouais.
Et la réalité, elle est 100 fois mieux, même si on peut passer par des moments très désagréables, mais qui sont hyper positifs en termes d'apprentissage, vraiment.
Super, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Oui. Merci beaucoup Marie.
Merci à toi de cette opportunité.
Je te demanderai tes coordonnées pour que effectivement tout le monde puisse venir... s'inspirer, se poser, passer un bon moment et boire des bonnes tisanes ici.
Merci.
Et puis, on se perd pas de vue. Hein,
non.
En face.
Tout à fait.
Alors, que retenez-vous du parcours haut en couleur de Marie? Écouter son instinct, savoir s'entourer, rechercher tout au long de son chemin ce qui est essentiel, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez partager aussi, naviguer et puis vérifier le cap régulièrement avec un bon business model. Alors, si vous aussi, vous avez envie de lancer des projets, de concrétiser vos idées, j'ai hâte de vous retrouver. Si vous avez écouté et apprécié cet épisode au cœur de l'été, je vous dis à très vite pour la rentrée et à bientôt pour d'autres récréations.